Luc 2, 8, je lis jusqu'au verset 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous en prie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et qui disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant Dieu et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. C'est la parole de Dieu. L'évangile du royaume, ou la victoire du royaume de Dieu sur celui de l'ennemi, le diable, Mammon, le Satan, l'opposant à Dieu, l'opposant à toute autorité, l'évangile. C'est ce qui est arrivé à Noël. Et nous voyons au verset 9 qu'un ange du ciel, et on est là en présence d'une manifestation spirituelle. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Et cet ange du ciel annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça veut dire euangélion, hein, c'est ce que j'ai écrit là-haut, euangélion. En grec, c'est l'original de ce que nous avons lu, c'est l'évangile. L'évangile, on le verra tout à l'heure, c'est l'annonce d'un événement historique qui a lieu à Bethléem. Bethléem est le lieu de la naissance et du couronnement de David. Certes, Jésus était de la famille de Nazareth, et les Juifs se moquaient, en tout cas les chefs des Juifs se moquaient de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Voyez-vous, déjà, Jésus venait avec un handicap par rapport aux chefs religieux, où il était méprisé. Pas possible qu'il vienne quelque chose de bon. Mais pour sa naissance, ils sont allés, les parents conduits par le Saint-Esprit sont allés à Bethléem. Et Bethléem, c'est le lieu de la naissance et du couronnement de David. Voyez-vous, les symboles, là, sont clairs. Hein ? Jésus vient sur le trône de David. Et cette origine remonte à Boaz qui a épousé Ruth, qui est devenue l'ancêtre de Jésus par la naissance physique. Et bien sûr, il est aussi né par le Saint-Esprit en étant fils de Dieu. Le roi David est le fils de Jessé de Bethléem. Et c'est là, dans ce contexte, que Jésus est né dans une étable. Et l'ange dit, « Je t'apporte une grande joie. » Michel a parlé du message de Marie-Laure Fenet. Vous pouvez toujours écouter sur France Culture, il y a 3 semaines, qui parlait de la joie de Noël. La joie de Noël. Soyons dans la joie. À Noël, c'est l'occasion d'être dans la joie. Parce qu'une grande lumière est venue dans les ténèbres de ce monde. Donc soyons dans la joie. Fêtons cette fête avec joie, avec les nôtres, avec les proches. Au verset 12, il est dit qu'il sera un signe. Un signe. Le mot signe est l'origine, c'est le seimon, seimon en grec. Seimon, ça veut dire donner du sens, faire connaître. Et cet ange a fait connaître à ses bergers la nouvelle de la venue d'un roi. D'un roi, vous trouverez l'enfant bébé dans une crèche à Bethléem. Le roi du monde, le roi de toute la terre, le roi de tout l'univers, eh bien, la marque de Jésus, de ce roi, c'est l'humilité. Il est venu comme un serviteur pour nous servir. Il a lavé les pieds des apôtres jusque avant d'être crucifié. Eh bien, ce serviteur confond les hommes avec leur orgueil, avec leur propre suffisance. Et nous confond nous. Il le confond avec le faste de Jérusalem. Il vient à Bethléem et il vient de Nazareth, de par ses parents. Dans l'évangile de Jean, le mot miracle n'est pas utilisé et le mot seimon, qui est traduit par miracle, est utilisé pour signe. Il sera un signe. Le mot seimon en grec a donné chez nous le mot sémantique. Sémantique, c'est le sens des mots. Il a donné le mot sémaphore. Sémaphore, c'est une communication maritime, en particulier les phares qui empêchent les navires de tomber sur des récifs et de couler. Le mot seimon, c'est le signe. Jésus n'a jamais fait de miracle pour épater la galerie, pour épater le peuple. Et quand les juifs, les chefs lui ont demandé de faire des miracles, il a dit le seul miracle que vous avez, c'est celui de Jonas. Jonas. Eh bien, au bout de 3 jours, quand il est avalé par le poisson, il est sorti vivant. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Mais c'est un signe. Jésus, ce qu'il fait, c'est un signe de la venue du royaume de Dieu. Amen. Et ensuite, au verset 14, nous avons l'armée céleste. Quand on dit que l'Éternel est le chef des armées, ça ne veut pas dire qu'il est en train de combattre l'univers tout entier. Ce sont les anges qui sont avec lui. Ces anges qui louaient Dieu et qui louent autour du trône pour le glorifier. Et ils chantaient « Gloire à Dieu et paix sur la terre parmi les hommes » qui font, alors que, disons dans ma Bible, traduction seconde, c'est qu'il l'agrée, mais est-ce que vous comprenez ça, qu'il l'agrée, je ne sais pas dans vos Bibles, eh bien, qui font son plaisir, tout simplement. Ceux qui font le plaisir de Dieu. Paix aux hommes pour ceux qui font le... Est-ce que nous faisons le plaisir de Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Faire le plaisir de Dieu, c'est obéir à sa parole. C'est de faire ce qu'il nous commande. C'est de faire ce qu'il nous dit. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Bila, qui, c'est vrai, ça fait 2 ans qu'il est avec nous. Il est très discret, mais néanmoins un homme de prière. Il a dit, chacun a sa place ici. Il y en a qui réclament des places. Mais vous avez votre place. Faites ce que vous avez à faire à votre place. Et ne faites pas comme les vaches qui cherchent toujours à brouter dans le camp du voisin. Restons à notre place. Parce que Jésus était à sa place. C'est un bébé. Il a accepté d'être serviteur avant d'être roi, avant d'être promu par son père. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Gloire à Dieu et paix sur la terre parmi les hommes qui font son plaisir. C'est en qui, c'est-à-dire en qui, il peut se réjouir, car ils font sa volonté. Et n'a-t-il pas, nous a-t-il pas appris le Notre Père ? Que ta volonté soit faite. Jésus, à chaque fois qu'il était défié par son Père jusqu'au Gethsémané, il a dit, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, mais si c'est ta volonté, eh bien, donne-moi la grâce de le traverser. Est-ce que nous sommes de cette nature, de serviteurs, qui sommes prêts, jusqu'à la mort, de servir, et pas de chercher une place, et pas de vouloir ce que le Seigneur n'a pas prévu pour nous. Nous sommes tous à notre place pour servir l'Éternel, notre Dieu. Amen. J'ai terminé en donnant la perspective du royaume. Ça commence à Noël et ça se termine à l'Ascension. Cette courte période de 3 ans, Jésus est venu pour le salut du monde. Il est venu pour se sacrifier pour nous, comme un agneau qu'on apporte à la boucherie. L'Ascension, quand Jésus repart, Jésus est venu à Noël, il est reparti à l'Ascension. Le règne de Dieu qui est venu vers nous est remonté au ciel en attendant le jugement. Ce qui attend le monde, c'est le jugement. C'est le jugement. Aujourd'hui, quand on peut dire aujourd'hui, il y a encore le salut possible en acceptant le sacrifice de Jésus. Eh bien, le Seigneur a envoyé son esprit à la Pentecôte pour que l'Église puisse annoncer ce salut, pour que chacun de nous puissions entrer. Et il est dit que la paix, eh bien, soit avec ceux qui sont agréés de lui. Et Jésus reste avec nous jusqu'à la fin. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Lorsque Dieu a maudit le serpent, il a maudit la femme, il a maudit l'homme après le péché, il a empêché que les hommes puissent remanger de l'arbre de vie. Eh bien, Jésus est venu écraser sa tête. C'est lui qui a écrasé sa tête. Ce qui m'a beaucoup perturbé quand j'ai cherché à comprendre le sens des symboles, j'ai vu que dans l'élévation de Marie, dans les églises catholiques, regardez bien, vous verrez que Marie écrase le serpent, mais il ne lui écrase pas la tête. Et c'est de l'ésotérisme, parce que dans l'ésotérisme, dans le religieux, on pense que le serpent, c'est le symbole de la vie éternelle. Donc l'ennemi a réussi, par l'ésotérisme, à faire croire des mensonges. Et en adorant Marie, eh bien on adore le serpent. Le serpent continue à séduire. Et Dieu a dit, il mordra, il piquera au talon. Et le talon, pour moi, dans l'Église, ce sont les émotions religieuses. Attention à nos émotions. Nos émotions, les émotions aujourd'hui conduisent l'Église dans la mauvaise direction. Restons sur l'objectivité de l'Évangile. Et c'est quoi l'Évangile ? On a gagné ! Dites-le tous, on a gagné ! C'est ça l'Évangile. Ok ? Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une sagesse. Tout ça, dans le monde, ça existe. Le monde, c'est rempli de religions de sagesse. Le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme. Eh bien, l'Évangile, ça veut dire « on a gagné ». Hello ? C'est un événement. C'est quelque chose qui se passe sur un champ de bataille. Le héros, là, j'ai montré quelques images de héros, hein, des héros. C'est quelqu'un qui est bien habillé, tout ça, et dont le seul but... c'est d'attendre que la bataille soit gagnée. Et après, il dit sur le champ de bataille, hein, il n'y avait pas de iPhone, ni de vidéo, ni de machin, ou de cell phone. Eh bien, lui, il passait en disant aux soldats, arrêtez, on a gagné, arrêtez, on a gagné, on a gagné. C'est ça l'Évangile. Est-ce que nous allons autour de nous dire on a gagné ? On a gagné quoi ? Il faudrait savoir ce qu'on a gagné. On a gagné contre l'ennemi de nos âmes. On a la victoire sur l'ennemi du royaume de Dieu. Amen. On a gagné. Hello. C'est incroyable que quand les Bleus gagnent, oh là, toute la France est dehors. Est-ce que nous sommes dehors ? Est-ce que nous, déjà, nous sommes dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos proches, en train de dire on a gagné ? Hello. Hein, Rémi, toi qui es un footballeur, là, est-ce que tu es prêt à dire on a gagné ? Eh bien, disons-le tous ensemble, on a gagné. C'est l'Évangile, c'est le mot Évangile. Vous voyez, je ne vous apprends rien. L'évangile, c'est de dire on a gagné parce que Jésus est venu nous apporter la victoire. On a gagné. Vous voyez, on a gagné. On a gagné quoi? Sur la mort. La mort, qui aujourd'hui frappe à cause du coronavirus, elle n'existe plus pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. La mort n'existe plus. La mort, elle est éradiquée par la victoire de Jésus, parce qu'il est venu à Noël s'incarner dans notre chair. Cette chair est morte à la croix, et aujourd'hui, nous avons la victoire. Amen. C'est le temps qui s'est arrêté. Le temps qui s'est arrêté. Jésus est l'alpha, l'oméga. Il est le début et la fin. Il n'y a pas de temps pour lui, mais il est venu pour notre temps, pour nous donner la victoire pour tous les temps. Amen. Aujourd'hui, il n'y a que le aujourd'hui qui existe pour Dieu et pour chacun de nous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et je voudrais vous dire, relisez l'Apocalypse au chapitre 2 et la lettre aux églises. Le dernier ange qui parle, c'est pour l'Église, c'est pas pour les inconvertis. Jésus dit, je frapperai à la porte et je souperai avec vous. Combien sommes-nous prêts à souper avec le Seigneur parce que nous lui fermons la porte? Parce que nous nous tournons vers d'autres choses. C'est pas parce que nous sommes chrétiens évangéliques que nous sommes automatiquement dans la présence du Seigneur. Il faut sortir de l'idée d'automatisme. Ça n'existe pas. Est-ce que nous obéissons à sa parole ou nous n'obéissons pas? C'est ça la question. Et donc cet évangile, c'est la proclamation de sa victoire. La proclamation de ce que dans ce monde, Dieu est venu au travers de Jésus à Noël. Il a vécu 3 ans à prêcher le royaume, à faire des signes qui montre que l'ennemi est vaincu. Dans l'Ancien Testament, vous ne voyez pas beaucoup de manifestations de démons. Et dès que Jésus arrive, les démons, ils crient, ils hurlent. « Que nous veux-tu? Tu veux notre mort ?» Bien, ils savaient que Jésus, c'était le Fils de Dieu. Nous ne le savons pas. Et eux, ils le savaient. Et en fait, ils sont sortis à l'instant même quand Jésus prenait autorité sur eux. C'est ça la victoire sur le mal, la victoire sur le malin. C'est pour ça que Jésus a appris à ses disciples le Notre Père, que nous sommes vainqueurs sur le malin. Amen. Et en tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin d'avoir la crainte, la peur. L'ange a dit, n'ayez pas peur, un sauveur vous est né. Et il faut que nous vivions la puissance de cet évangile. De cet évangile qui est l'annonce de la victoire. Amen. Et que nous ne fassions pas une religion, une sagesse, une règle, mais c'est un événement historique que nous pouvons vivre aujourd'hui et maintenant. Prions. Seigneur, merci, parce que cet évangile, Seigneur, qui a été transformé dans tellement d'autres bonnes nouvelles qui ne le sont pas, qui sont des sagesses humaines, qui sont des pratiques humaines. Seigneur, l'Évangile, c'est toi qui es venu, qui a accepté comme un petit enfant de venir, de vivre sur cette terre et de porter les péchés, nos péchés, sur la croix. Et Seigneur, c'est grâce à ce sacrifice que nous avons la victoire aujourd'hui sur le péché, sur la mort. Et nous te remercions pour cela. Et nous pouvons commencer, Seigneur, à vivre ce Noël avec déjà la perspective de Pâques, la perspective de l'Ascension. Que nous ne nous baissions pas les bras, mais que nous soyons debout pour l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. Amen.